Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur les ondes de Radio Sommière. Aujourd'hui, nous sommes à Sommière pour l'ouverture de la 26e édition du festival Les Trades Hivernales. Et nous avons l'occasion de rencontrer Gilbert Chiron, conteur, et André Gabriel, tambourinaire. Allons leur poser quelques questions. Bonjour, pouvez-vous vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs et auditrices?
Gilbert Chiron, conteur en français et en provençal. Je suis du Vaucluse et j'ai découvert le conte à 55 ans. Je faisais du théâtre et un jour j'ai rencontré une conteuse et c'est comme si j'avais reçu la foudre sur la tête. Ça m'a d'un seul coup... Je me suis dit, tu es fait pour ça. Voilà, donc je suis conteur depuis maintenant 15 ans.
Donc un jeune conteur. Et moi, c'est André Gabriel, bon, musicien, marseillais et tambourinaire. Et voilà, j'ai fait ma carrière dans la musique, que ce soit en violon, à l'opéra ou au conservatoire ou à l'université, voilà, pour enseigner la musique.
Collectionneur d'instruments de musique.
Pouvez-vous nous parler de vos débuts dans la musique? Comment êtes-vous devenu tambourinaire?
Alors dans la musique, bon, j'ai commencé par le violon comme tout le monde, enfin la musique normale, classique, donc au conservatoire, pour avoir le prix, donc j'ai fait le prix d'alto, de musique de chambre et de violon, etc. Et puis, comme j'appartenais à un groupe qui s'appelait les Musiciens de Provence, eh bien, j'ai été intéressé par le galoubet, ça a été mon premier instrument avant, et comme il s'était perdu dans mes affaires, au moment de le rendre à René Nazé, dans la voiture en descendant de mon village, je commençais à jouer, j'ai dit, mais c'est facile cet instrument, toi. Et du coup, en 2 ans, j'ai passé mon prix, et puis je suis devenu, après j'ai passé ma thèse sur ces instruments-là, mais on devient souvent par hasard, souvent ce sont des rencontres, hein. Comme l'a fait Gilbert, comme, voilà, on rencontre quelqu'un, on rencontre un instrument, on rencontre une idée, on rencontre un prof, bon. Et c'est pour ça qu'il faut être très attentif et très réceptif, et dans votre vie, c'est ce que je vous souhaite à tous, de rencontrer votre âme sœur qui vous permettra de faire le parcours le plus élaboré, le plus scientifique et surtout le plus épanouissant pour vous dans votre vie d'adulte ensuite. C'est ce que je vous souhaite.
Quels ont été les premiers récits ou contes qui vous ont marqué enfant? Ont-ils influencé votre art?
Alors, comme tout le monde, c'est des contes de Daudet. À l'école, on nous racontait la cabre, la chèvre de Monsieur Seguin. Mais franchement, je dois dire que ça n'a pas été le choc. Hein. La première fois que je l'ai entendu, on me l'a lu. Hein. Mais lire un conte, c'est pas encore... c'est pas ça, c'est pas la même chose. Non. Moi, c'est quand j'ai rencontré des conteurs qui nous racontaient des histoires de Provence, des histoires de Faucombe pour ma part. Hein, c'est un petit village dans le Vaucluse. C'est des histoires qui ont été collectées par un ami dans les années 70 et qui datent du siècle dernier. Et là, ces histoires-là, aux couleurs de la Provence, aux couleurs du pays, c'est ce qui m'a poussé à les raconter. Et c'est pour ça que j'ai commencé par des contes très, très ciblés géographiquement, c'est-à-dire des contes sur le Mont Ventoux, par exemple, hein, des contes sur ma montagne. Après, je me suis élargi parce qu'en fait, on s'aperçoit que même si un conte il est situé sur la montagne du Ventoux, par exemple, c'est des contes que tu retrouves partout dans le monde.
Quels ont été les premiers morceaux ou artistes qui vous ont marqué enfant? Ont-ils influencé votre art?
C'est beaucoup plus compliqué ça, parce qu'en réalité, dans la musique classique, il y a toujours des gens qui sont largement au-dessus du lot, et notamment bon, que ce soit Eiffel, moi j'avais eu en violon Davy Early, qui a été le premier à avoir le prix Marguerite Long. Donc en fait, il faut rencontrer des personnalités fortes, et souvent... Ces gens-là vous ouvrent, que ce soit sur la musique, mais que ce soit sur le monde aussi, sur l'esthétique, sur la philosophie, et c'est important. Et donc en général, les grands musiciens ou les grands artistes ou les grands conteurs ont toujours cette ouverture sur le monde. Il y a une question d'universalité dans cette pratique-là. Et donc dans les premiers morceaux, ben, évidemment, en violon, on commence toujours par le Bach, hein, Jean-Sébastien Bach, donc les sonates pour violon. Et puis après, le galoubé, ben évidemment, le galoubé, il n'y avait pas trop de choses. C'était plutôt le folklore à l'époque. Donc, dans les années 75, quoi, hein, bon, voilà, il y a longtemps. Et donc là, après, mon travail, moi, ça a été de travailler le répertoire académique savant baroque. C'est pour ça que j'ai joué après avec William Christie, avec les ambassadeurs, ce qu'on appelle le Kosenko, etc. Parce que il y a, au XVIIIe siècle, dans la musique, ce qu'on appelle galante, donc il y a une recrudescence des instruments qui sont devenus traditionnels ensuite, dont la vielle à roue, la musette de cour, la flûte de pan qu'on appelle le frestet, et le flûté tambourin, donc le galoubé tambourin. Et d'ailleurs, dans tous les opéras du Sud, vous avez des décors avec des tambourins et des galoubés. Alors à Montpellier, c'est le plafond. Vous regarderez le plafond si vous allez à Montpellier. Il est au Peyrou, là-haut, derrière le château d'eau. À Marseille, vous en avez dans les salons des artistes. Vous avez à Toulon, c'est pareil. Et donc, en fait, le galoubé fait partie un peu de l'environnement. Vous l'avez au l'Opéra Comique à Paris. Voilà. Et donc, ça fait partie un peu de cet environnement à la fois musical, folklorique, traditionnel. Et donc le galoubé a cette particularité, c'est que c'est un instrument traditionnel, certes de Provence, ça il n'y a aucun doute, avec le fameux triangle Toulon-Aix-Marseille, mais en même temps, c'est quelque chose qui, avec le phénomène de l'opéra, surtout à l'époque avant la Révolution, donc Rameau, Couperin, etc., il y a eu cette espèce d'universalité, d'ouverture, avec des partitions écrites, donc il fallait lire, et après on est retombé dans une espèce d'oralité pour revenir après, dans les années 80, avec des musiciens qui sont complets, qui savent lire et qui savent écrire, composer. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est un parcours très, très particulier, puisque finalement, autrefois, la musique traditionnelle n'était pas enseignée dans les conservatoires, et depuis 89, elle l'est, donc avec des départements plus ou moins bien ciblés. Et ici, vous avez le graille, le hautbois, la boudègue. Bon, nous avons le galoubé tambourin. Par contre, l'accordéon diatonique se joue absolument partout, et le violon traditionnel aussi. Donc, il y a toute une sorte de reprise en compte de cette musique-là, alors qu'au départ, comme c'était des gens qui fonctionnaient par l'oralité, hein, bon, pas forcément par l'écriture. Bon, les musiciens en col blanc avaient plutôt une espèce de rejet ou de méfiance. Et puis finalement, avec les années fleurées, donc il a été l'inspecteur de la musique, les choses se sont remises en perspective. Et donc, on a considéré que c'était un patrimoine immatériel de l'humanité, comme la langue, donc le provençal, l'occitan, les langues régionales, ce qu'on appelle. Et donc, tout ça s'est lié et ça fait partie d'une ouverture culturelle qui s'est passée dans les années, avec les années Mitterrand, à partir de 81. Voilà.
Pouvez-vous nous présenter votre instrument ?
En fait, le galoubé, c'est une flûte, on appelle ça le flûté aussi, c'est une flûte à bec, à trois trous, et donc l'autre main étant libérée pour jouer évidemment du tambourin, et donc ça marche sur le principe des harmoniques exactement comme une trompette, donc en soufflant plus fort, par exemple, vous voyez, en bouchant tout, ça c'est fondamental. Uniquement avec le souffle. Avec un doigt qui bouche, avec aucun doigt qui bouche, et après on fait la gamme, et quand on veut descendre, on peut descendre par des demi-trous, donc on fait des altérations, ce qui remplace, ce qui a été remplacé ensuite par les clés, que ce soit le système bum sur la flûte traversière, que ce soit le système closé sur la clarinette, et donc... Donc un ambitus d'une douzième. Et donc avec le reste, quand on fait le rythme... La table ne sonne pas forcément comme un tambourin, mais bon, avec un peu d'imagination, on peut le faire. Voilà.
Comment vous vous êtes rencontrés et comment mélangez-vous les contes à la musique ?
Ça, c'est la question pour Gilbert.
Alors, on s'est rencontrés parce que j'avais envie d'avoir un musicien... d'avoir un musicien avec moi. De temps en temps, j'ai des musiciens, un accordéon. Et là, moi, j'avais très envie depuis longtemps d'avoir un galoubé et un tambourin avec moi, parce que ça correspond à la couleur de mes contes qui parlent de la Provence. Et puis, on a une amie commune à qui j'ai posé la question, qui m'a dit « Mais André !» Oh, je dis, André, est-ce qu'il va avoir le temps ? Eh bien, il venait juste d'arriver à l'âge de la retraite, j'ai saisi le bon moment. Et voilà. Et comment on fait, on travaille avec nous, ben je lui raconte mes contes, hein, et on décide de quelle musique va avec. Au plus simple, c'est comme ça, comment il le sent. Et chaque conte est accompagné, est précédé, accompagné et terminé par un air ou et par un instrument qu'on choisit tous les deux, même si c'est André qui a souvent le plus d'avis là-dessus. Mais voilà.
C'est une collaboration. C'est vraiment une collaboration, voilà. Amicale, bien entendu, hein, voilà, mais bon. Et en fait, le conte, c'est l'architecture de ce qui se fait. Et donc moi, je suis là juste pour faire un peu une touche de couleur, pour amplifier l'expression, pour amplifier la sensibilité, pour amplifier l'effet. Mais normalement, le conte, matriciellement, c'est lui qui est le pilier absolu. Et quand il vous dit qu'il compte, Gilbert, c'est pas qu'il compte, c'est qu'il vit ses contes. Et donc, il y a une sorte de dédoublement de la personnalité. C'est exactement ça. C'est pas lui qui raconte, en fait, c'est son subconscient, c'est son imaginaire. Et donc, le conte vous embarque, vous enveloppe, vous fait passer dans un autre monde. Et la musique, elle est juste là pour souligner des choses qui peuvent dépasser à ce moment-là l'écriture ou la parole, le verbe. Et à ce moment-là, le verbe étant créateur, la musique essaye de compléter au mieux en fonction de la sensibilité. Mais on peut faire 10 fois le même conte. Comme c'est un conte qui est quand même n'importe lesquels, ils ne sont pas forcément écrits, ce n'est pas un texte d'auteur, c'est une histoire, c'est un canevas. Donc à ce moment-là, chaque fois, il rajoute des choses, il en enlève, etc. Et la musique, c'est pareil. Ce n'est pas quelque chose qui est rentré chaque fois. C'est pas improvisé, c'est travaillé, mais en fait c'est ciselé à chaque instant, et c'est ça qui est c'est ce que le spectacle vivant, tout simplement. Et donc c'est exactement ce qui nous plaît dans ce genre de choses, parce que quand on répète, il va pas se mettre en transe pour me conter le conte. Donc c'est moi qui me refais mon imaginaire, et après au moment de le public, c'est la magie du public, c'est la magie de l'expression, du partage. À ce moment-là, on y met toute notre énergie, on dit toute la gomme, hein, familièrement, pour justement essayer d'embarquer les gens, parce qu'en fait un conte, c'est une distillerie à rêve. On est là pour vous emporter ailleurs. Et donc, les enfants, c'est normal, mais les adultes, on est là pour les réconcilier avec leur enfance lointaine, quelquefois perdue, avec nostalgie. Donc, on est là pour, en fait, vous rassembler et faire en sorte que vous ayez un spectacle, mais qui, à la fin de ce spectacle-là, vous dites « Ah ben oui, c'était bien, ça m'a rappelé, etc. etc. » Et c'est ça. Et en fait, c'est un peu cette Madeleine de Proust qui se fait à travers des histoires quelquefois simples, quelquefois amusantes, voilà, truculentes, mais toujours avec un fond traditionnel, toujours avec un fond de vérité, toujours avec une sagesse absolument paysanne, comme on dit, hein, terrienne, tellurique. Et donc ça permet effectivement d'avoir toute cette gamme de possibilités que l'on a dans l'expression. Et c'est pour ça qu'on peut avoir le même conte pour ce qu'on appelle le jeune public, ou pour du public beaucoup plus âgé, comme on a eu par exemple ce matin, et des gens qui avaient le sourire, la grande banane jusqu'aux oreilles, parce que évidemment ça leur rappelait toutes sortes de choses, et c'est normal. Et puis la façon de dire, ça vous embarque, parce que il y a le verbe, et puis il y a la façon de le dire, il y a le texte, et puis il y a ce qu'on y met comme intention, et l'intention étant évidemment très amplifiée, parce que Gilbert est un Provençal, et vous savez que les Provençaux ont une grande faconde, comme les gens du Midi en général, et donc ça permet évidemment de laisser libre cours à une sorte d'improvisation et de liberté, et surtout de conviction. Et la force de conviction dans le conte, c'est extrêmement important, parce que en réalité vous êtes obligé d'adhérer et de rêver avec le diseur de bonne aventure, le diseur de merveilleux, et donc c'est ça qui est extraordinaire.
Aujourd'hui, y a-t-il une histoire ou un conte qui vous tient particulièrement à cœur? Et pourquoi ?
Quoi, il y en a plein, mais je vais pas aller dans la singularité. La cabre, la chèvre de Monsieur Seguin, qui est toute simple, qui parle à tout le monde. Les premiers, je me suis dit, mais pourquoi tu vas la raconter, hein ? Tout le monde l'a entendue. Oui, mais les gens la demandent. Et cette histoire, elle a été écrite par Alphonse Daudet et peut-être un autre écrivain qui a un peu disparu, qui s'appelle Paul Arène. On ne sait pas qui a écrit le fond de cette histoire, mais bon, elle est là. Et elle raconte donc l'histoire d'une chèvre qui veut vivre sa vie. Hein ? Et son propriétaire, M. Seguin, ne veut pas la laisser partir parce qu'il dit « tu vas te faire manger par le loup ». Ça, ça représente la jeunesse. À 20 ans, tu fais des bêtises. Tu as envie de découvrir la vie, même si tu risques ta vie, même si tu fais des bêtises. Et les parents sont là pour dire Non, on ne le fait pas, tu vas faire des bêtises, ça va te coûter ta vie, ça va te coûter. Daudet a fait beaucoup de bêtises quand il avait 20 ans et il a subi, il a été malade, donc il a subi des choses parce qu'il a fait un peu n'importe quoi à un certain moment. Ça, c'est une chose. Mais il y a plein d'autres choses dans cette histoire. Est-ce qu'une jeune chèvre, est-ce qu'on a le droit de posséder une vie? Est-ce que, parce que tu es vieux, tu peux décider de ce que va devenir la vie d'une jeune chèvre, hein, parce que les chèvres, les animaux dans les contes sont souvent des êtres humains, hein, c'est des parallèles que l'on fait entre les deux. Il y a plein de choses dans cette histoire, elle marche, elle est mondiale, parce qu'elle elle parle de notre vie, du début à la fin, à la naissance, à la mort. Et j'ai raconté ces histoires à des Américains, elle leur a parlé. J'ai raconté cette histoire-là à des Bulgares, je leur disais, ils ne connaissent pas. Mais non, ils connaissent très bien la chèvre de M. Seguin, en Europe, dans toutes les écoles d'Europe. Voilà, cette histoire que je ne raconte pas tout le temps, hein, elle est symptomatique.
Qu'est-ce qui distingue un conteur d'un narrateur ou d'un lecteur?
Voilà, alors en gros, d'abord, un lecteur, tu dois respecter le texte. Le lire un texte, c'est un travail aussi important que de le savoir par cœur et de le réciter. Il faut adapter, il faut prendre le rythme, et il faut s'adapter au rythme de l'écrivain. Donc ça, c'est un travail à part. Un conteur, il prend une histoire, il l'intègre à sa personnalité, il garde l'essentiel de l'histoire et il le dit avec ses propres mots, avec ses propres couleurs. Raconter une histoire, c'est un je travaille sur le squelette, là c'est mon travail, hein, que je fais, un squelette de l'histoire, le début, le milieu, la fin. Sur ce squelette, je mets de la chair, c'est les mots, mais c'est mes mots, c'est pas les mots d'un écrivain, c'est les mots de Gilbert Chiron. Et un autre conteur mettra ses propres mots, donc c'est la chair. Par-dessus, je mets des vêtements, les vêtements c'est le rythme que j'adapte, hein, à l'endroit, au public, au fait que si j'ai de la musique ou non. Et la couleur, les dernières couleurs, les couleurs de mes vêtements, c'est les mots. C'est mon accent. Et c'est même le moment de dire de la langue provençale. La langue provençale, c'est mes couleurs. C'est l'air de dire je suis d'ici et je parle dans la langue du pays. Vaquier.
Comment choisissez-vous les histoires que vous racontez? Préférez-vous les contes traditionnels, les créations personnelles ou un mélange des deux?
D'abord, il faut que je tombe amoureux. Et à partir de là, je vois si je peux la raconter. Mais ça veut dire que je peux prendre une histoire qui nous vient du Béarn ou de Bretagne. Si je peux l'adapter avec mes mots, hein, avec mes sentiments, ma façon d'être. Hein. Si on me dit sur commande, c'est très compliqué. Et pourquoi les contes traditionnels? Les contes traditionnels sont beaucoup plus faciles à raconter que les histoires que l'on peut trouver dans des œuvres littéraires. J'ai travaillé pour un écrivain provençal, Camarguais, Joseph Darbeau, qui a écrit des poèmes et des textes absolument fabuleux. C'est très compliqué d'adapter ces textes. Si je prends un texte traditionnel, un conte traditionnel qui a été raconté par des générations et des générations de conteurs, il a été modelé, il a été ciré, lustré par les conteurs qu'il y avait avant moi. Et moi, j'ai simplement à l'adapter. En fait, quand je raconte une histoire, je raconte des images qu'il y a dans ma tête. Avant chaque conte, si j'ai le temps, je ferme les yeux. Et là, je dis, il avait neigé. Presque 30 cm. Aucun bruit. Simplement, de temps en temps, un paquet de neige qui tombait d'une branche d'arbre. Je crée des images. Et c'est là que je prends les gens et je les garde jusqu'à la fin. Si ça marche. Si ça marche pas, ils s'endorment, ils partent. Voilà. Quand vous commencez un texte, vous lisez un texte, vous racontez une histoire à vos copines, pensez toujours à commencer avec quelque chose de simple et d'une image. Hier, j'ai vu Pierre. Il était au coin de la rue. Tu sais, le coin de la rue, là, juste à côté. Voilà, une histoire, une image. Et là, vous prenez tout le monde et vous les gardez.
Et justement, quel conte allez-vous raconter aujourd'hui ?
Je vais commencer avec... Il y en a un conte très important pour moi, c'est un des premiers, qui s'appelle Bonhomme Misère. C'est un conte qui a été... qui est vieux, qu'on retrouve dans plusieurs traditions, de plusieurs pays en France, mais moi j'ai pris la traduction d'un de nos auteurs d'ici, c'est Roumanie, voilà, hein, un auteur de Provence, qui s'appelle Bonhomme Misère, et c'est l'histoire d'un monsieur qui reçoit la mort chez lui et qui se joue de la mort.
Que pensez-vous du festival Les Trades Hivernales ?
Ben c'est bien, c'est surtout la longévité, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui sont motivés, et puis surtout ils sont motivés par la filiation de l'Occitanie, et donc il y a vraiment des ancrages vraiment telluriques importants, et puis et c'est surtout dans les temps qui courent, il faut pouvoir s'engager, et le bénévolat n'est pas quelque chose aujourd'hui qui va dans le sens habituel des choses, donc il faut effectivement vous-même, quand vous serez plus grande, essayer de vous engager, quelles que soient les causes, bon les meilleures évidemment, et donc la cause culturelle, évidemment, aujourd'hui est un peu plus difficile parce que le contexte fait que le spectacle vivant, on parle de subventions, les assurances, les machins, il y a toujours des questions de sous. Et le problème, c'est qu'il y en a de moins en moins. Donc, à un moment donné, il faut que le bénévolat et surtout le militantisme, n'oubliez pas que militant, ça vient de militates en latin, c'est-à-dire un soldat. Et donc, nous sommes tous des soldats militants pour une culture. Bon, nous, évidemment, c'est la culture occitane, provençale, régionale. Mais toutes les cultures se valent dans le monde. Et le conte en est un exemple frappant. Puisque, comme vous l'avez expliqué Gilbert, bon, il y a le même schéma d'un conte, on le retrouve dans toutes les latitudes. Et donc, si un jour vous faites la narratologie à l'université, vous verrez que vous avez des types de contes, on les numérote, hein, il y a des types de contes, et ça c'est le conte, donc le schéma c'est le même. Alors après il y a des variantes régionales, locales, bon, etc. Mais il y a des schémas comme ça, et tout simplement parce que ces contes-là sont venus de l'oralité, par un monde souvent qui était paysan, donc qui était en rapport immédiat avec la Terre, avec les astres, avec toute une connaissance, et complètement aujourd'hui coupé de notre réalité, puisque même si vous êtes à Sommières, c'est une petite ville peut-être, mais enfin en tout cas, vous êtes tous sur vos écrans, bon, même si vous ne le dites pas forcément, et donc vous êtes un peu coupé de la réalité de la nature. Or le conte, vous, d'abord il est initiatique, comme vous l'a expliqué Gilbert, mais c'est surtout qu'il vous remet, il vous recentre au milieu, au centre même de la création, et c'est vous en fait qui êtes les propres maîtres de votre destin. Alors que souvent, quand vous avez des systèmes avec les iPhones, là, bon, ben, c'est plus vous qui pensez. En fait, on vous influence. Alors que là, si vous avez vraiment ce rapport intime avec la nature, avec le cycle des saisons, avec la symbolique, avec l'initiation au monde qui tourne, à ce moment-là, vous avez beaucoup plus de chances d'être proche de ce genre de choses. Et du coup, les hivernales sont un peu le fruit de tout ça, parce que c'est né d'une volonté avec Denis, il y a 26 ans maintenant, c'est quand même très important. Et 26 ans dans la durée, il faut saluer, parce que souvent, les festivals, ils s'en montent beaucoup, mais malheureusement, beaucoup s'arrêtent au bout de 10 ans, parce que faute d'argent, faute de motivation. Donc, comme vous êtes toutes intéressées par la question, et essayez de prendre aussi la relève des anciens, mettez la main à la pâte, essayez de pastouiller tout ça, de sorte qu'il y ait une relève, et une relève volontaire, parce que en fait c'est un bâton de relais. Le conte vous enseigne effectivement que c'est une connaissance que vous transmettez sous l'aspect un peu de la comédie, quelque part. Bon, ça vous enseigne une certaine façon d'être, mais aussi l'exemple. Et l'exemple des anciens, l'exemple des bénévoles qui se lèvent le bédélé jusque depuis 26 ans, c'est aussi un conte. Et quelque part, c'est un conte merveilleux, parce que ces gens-là, lorsque vous leur parlez, moi on en a vu au repas, là, bah, ils vous racontent leur vie, mais voilà, ils sont transformés par ça. Et en réalité, ils n'attendent rien, simplement que le sourire du public. Et souvent, nous ne dépendons, les gens du spectacle, que du public. Donc vous pour plus tard, mais surtout pour ce que vous allez faire, pour faire en sorte que le spectacle vivant puisse continuer dans les conditions les meilleures. Et après, on est tous militants pour chacun sa cause, chacun son esprit. Si on peut gagner sa vie avec ça, c'est pas plus mal. Mais le but, c'est pas forcément ça. Loin s'en faut. C'est surtout de distiller du rêve et de rendre les gens, quelque part, c'est peut-être utopique, mais en tout cas meilleur et beaucoup plus en adéquation avec leur milieu. Donc c'est pour ça que ces festivals-là, ces petits festivals qui sont comme ça un peu, je dirais presque sous le manteau, pas très connus. Moi chez nous, dans les Bouches-du-Rhône et surtout à Marseille, c'est pas forcément ce qu'on repère le plus parce que l'information ne passe pas forcément, donc il y a un problème de communication. Mais vous voyez qu'ici c'est un phénomène de société dans ce bassin de vie du Gard. Donc il faut vraiment accélérer et surtout faire en sorte que cette flamme perdure à travers vos engagements mutuels.
Pouvez-vous décrire votre processus de création ou de préparation avant de raconter un conte ?
Alors, mon processus, c'est d'abord le choisir. Pour le choisir, il faut que je tombe amoureux. Une fois que je suis tombé amoureux de ça, je choisis la version qui me va, parce qu'il y a souvent beaucoup de... Il y a plusieurs versions de contes. Ensuite, je le dis. On dit que je le dis au mur. C'est-à-dire que je le dis plusieurs fois, tout seul. Je le répète. Je n'apprends pas par cœur. Ça, c'est une première chose. Une fois que je l'ai en bouche, je le mets en séquence. Et chaque séquence, j'étudie. Ça, c'est un grand conteur qui m'a donné cette méthode. Chaque séquence... Je détermine l'action, je détermine les personnages qui sont à l'intérieur, je détermine le symbolisme que l'on peut trouver là-dedans. Dans chaque chose, il y a souvent un symbole. Je détermine aussi ce que je ressens quand je le dis, la peur, le froid, l'envie, la méchanceté, la gentillesse. Je définis tout ce que je veux, tout ce que je ressens et tout ce que je veux donner à mes écoutants, on va dire, hein, mes spectateurs, voilà. Et une fois que j'ai fait tout ça, je le redis. Et après, je le dis en public, mais mon conte n'est jamais terminé. Chaque fois que je raconte, c'est jamais la même chose. Le sens... Et là, mais je fais varier les couleurs. Plus rapide, moins rapide, plus haut, plus bas. Voilà, en fonction du public, je change mon rythme. Je change un peu d'ailleurs comme on fait quand on joue. On interprète. Hein. J'ai une partition, mais j'essaye d'interpréter en fonction des endroits.
Quel a été le moment le plus marquant de votre carrière de conteur ?
La première fois que j'ai raconté dans mon village. Ça faisait 30 ans que je faisais du théâtre amateur, mais que je racontais de partout, dans la rue, en haut des montagnes. Je suis allé jouer aux États-Unis, dans les universités. Je suis allé jouer au Danemark, dans plein d'endroits. Mais donc après 30 ans de théâtre, j'ai travaillé le conte. J'avais 3-4 histoires, pas plus. Je devais raconter dans mon village. J'étais sur le banc devant la salle des fêtes et je me suis dit, tu vas pas arriver à te lever. J'étais paralysé par le trac. C'était plus du trac, c'était de la peur. Une peur panique. Je crois que j'ai failli m'enfuir. Ma femme est arrivée, m'a regardé, m'a dit, qu'est-ce que tu as ? Pourquoi tu es tout blanc ? Elle me dit, mais tu as pas peur ? Ça fait 30 ans que tu racontes, tu joues au théâtre. Oui, mais ce jour-là, j'étais tout nu devant les gens de mon village. Là, voilà, ça a été très, très marquant. La deuxième fois qui me revient là, hein, c'est que je suis allé jouer dans la calandrette d'Orange, donc avec des enfants de votre âge. Et la calandrette, ils apprennent le provençal. Hein. Ils apprennent le provençal, ils ont les cours en provençal. Et là, pour la première fois, j'avais que des petits. C'était pas la première fois que j'avais des petits, mais je leur envoyais des contes en provençal et ils riaient. Et il me répondait en provençal. Et alors après, je suis allé chercher, parce que quand tu es conteur, tu cherches ou tu ne cherches pas l'interaction. Et là, j'ai cherché l'interaction. Et ils m'ont répondu en provençal. Voilà, ils ont répondu. Et ça a été un moment extraordinaire pour moi. Voilà.
Qu'apprend-on sur soi-même en devenant conteur ?
Donc moi, j'ai appris que tu vas me dire, c'est tout simple, sur moi, c'est que je racontais des histoires, quoi. Et que le conte était adapté à ma façon, à ma forme de mémoire. J'ai une mémoire visuelle. J'avais beaucoup de mal au théâtre à retenir des textes littéraires parce que j'avais toujours tendance à les couper, à ne pas dire exactement ce que le texte. Bon, le travail du conteur, c'est plus facile, c'est moi qui parle. Ensuite, j'ai appris que je pouvais fasciner les gens. Ça ne m'était jamais arrivé de ma vie. C'est-à-dire que vous prenez les gens, vous les emmenez dans une histoire. Donc c'est une responsabilité aussi parce qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi.
Quand on joue, on joue toujours une partie de soi-même. Et ce qu'il y a d'intéressant, que ce soit pour le conte de Gilbert ou pour la musique, il n'y a jamais de petits concerts. Vous pouvez jouer devant 2-3 personnes ou devant 2000 personnes, comme ça arrive à tout le monde. Il y a toujours dans le public, même s'il y a 3 personnes, il y en a toujours un qui connaît et qui est en mesure d'apprécier comme vous le mettez. Donc en réalité, il n'y a pas de concert banal. Il n'y a pas de soirée de conte banale. C'est une chose qui est... à partir du moment où vous jouez, vous êtes dans un état second. Et donc c'est ça qui vous transforme. Et c'est ça qui finalement vous révèle que vraiment vous êtes fait pour ce métier-là. Quand vous voyez des musiciens, au bout d'un certain temps, le jour où ils prennent leur retraite, ils vendent leurs instruments, j'en ai connu à l'opéra. Bon, vous dites, c'est dommage parce que toute leur vie, ils n'ont pas profité du don que leur a donné le créateur. Et en réalité, il faut bien se dire que quand vous jouez, vous donnez le meilleur de vous-même, autant que vous puissiez le faire, mais c'est surtout que vous embarquez les gens. Et vous aidez les gens, à ce moment-là, le public, même s'il n'est pas forcément sur la musique classique ou la musique traditionnelle ou sur le conte, en fait, il faut les mener, il faut les conduire, et c'est là où vous devenez, à ce moment-là, des guides quelque part. Des guides esthétiques, des guides spirituels, des guides poétiques, des guides esthétiques. Et donc il y a toujours cette notion d'initiation, et quand vous jouez, il ne faut jamais banaliser la prise de parole ou la prise de musique dans un espace public, parce que vous ne jouez pas votre vie à chaque fois, mais en réalité presque, puisque vous avez pour mission de transformer les gens auxquels vous vous adressez et auxquels votre musique est destinée. Donc c'est important, effectivement. Et ça vous apprend sur vous-même à vous maîtriser, à ne pas faire n'importe quoi, bien entendu. Et chaque fois que vous avez à jouer, il faut essayer toujours de viser l'excellence, avec les limites de chacun, bien entendu. Mais c'est ça l'intérêt. Et donc c'est un perpétuel dépassement. Et vous voyez, nous avons un certain âge, nous deux. On ne s'est jamais lassé, parce qu'on est toujours émerveillé d'emporter le public, d'embarquer le public, de donner du plaisir au public. En fait, c'est un métier passion. Et vous voyez, moi, on m'a mis à la retraite, évidemment, bon, j'avais plus d'âge, mais j'ai jamais eu l'impression de travailler de toute ma vie. J'ai failli être prof de philo, à l'époque, puis bien heureusement j'ai bifurqué sur la musique et bien m'en a pris, parce que tous les problèmes, les profs qui étaient avec moi, enfin qui sont devenus profs après, qui étaient en philo, ils sont tous devenus dépressifs et ils n'avaient de mire vraiment que de prendre la retraite. Et moi j'ai été très vexé qu'on me mette à la retraite. Bon, j'avais plus d'âge, évidemment, c'est normal, mais parce que en fait ce sont des métiers qui sont des métiers passion. Et il faut bien se dire qu'avec ces métiers passion, on n'avait jamais l'impression de travailler. Et chaque fois que vous vous levez le matin, vous dites ah, je vais me régaler parce que je vais avoir tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et c'est ça qui est important. Et donc dans votre vie, moi j'avais dit ça à mon fils aussi, sur un carnet, vous prenez un carnet recto verso. La page normale, la première, vous mettez ce que vous voulez faire. Et puis à l'envers, votre carnet, vous mettez ce que vous ne voulez surtout pas faire. Puis vous faites le bilan. Et lorsque vous arrivez au moment de votre orientation, vous choisissez ce que vous voulez. Alors après, il faut évidemment avoir le profil, le talent, d'accord, ça. Et n'oubliez jamais que même Gilbert, il le fait comme pour rire, comme ça. Vous avez noté qu'il travaille beaucoup. Et que moi, tous les jours, je fais au moins une heure d'instrument. Bon, quand on présente les prix, on en fait 4 heures, 5 heures, 6 heures, mais bon. Et un jour sans musique, pour moi, est un jour triste. Donc, j'ai pas l'impression de travailler, je m'amuse en fait. Et donc, il faut vraiment faire ce que l'on veut toute la journée, chaque fois, chaque jour que vous pouvez le faire. Et donc, les comptes, c'est pareil. Parce qu'il est là à calculer, mais il est toujours dans ce qu'il va faire d'excellence. Et en réalité, c'est ça. C'est l'ADN du métier. En fait, c'est un métier, mais on s'amuse toute notre vie. Moi, j'ai jamais eu l'impression de travailler. Voilà, pour ça que mettre à la retraite, ça me fait drôle, parce que finalement, je suis à la retraite de moi, j'ai jamais travaillé de ma vie. Il faut se rendre compte qu'un prof de musique est payé. Bien payé, quoi que disent les syndicats, pour que des minots jouent pour vous. Et ce, toute la vie. Rendez compte, c'est extraordinaire. Moi, j'ai toujours trouvé les vacances très longues. Les vacances d'été, je trouvais ça toujours très long parce que les élèves me manquent. Et là, bon, je suis à la retraite, les élèves me manquent beaucoup, que ce soit à la fac, que ce soit au conservatoire, parce que c'est un rapport. Et puis vous êtes là pour agitateur de conscience. Vous éveillez les minots et vous êtes leur premier public. Et donc après, lorsque vous les larguez dans la vraie vie, et bien à ce moment-là, ils sont... pratiquement dans la liberté et ça n'échange guère. Finalement, c'est ça. Donc, choisissez bien le métier que vous voulez. N'ayez pas l'apologie de faire postier ou gratte-papier dans un bureau. Faites quelque chose parce que la vie est courte, mais quand même, quand on s'ennuie, elle est très longue. Mais moi, je ne l'ai pas vu passer, mais vous êtes à l'aube de votre vie professionnelle, donc pensez à vous amuser. Il faut toujours que le travail soit un jeu.
Si vous deviez être un conte, lequel serait-il ?
Si j'étais un conte... Je vais me relever là. Si j'étais un conte... Difficile. Là, en ce moment, je retravaille... Il y a un conte des étoiles, où c'est un jeune berger de 20 ans. Donc peut-être que quelque part, je regrette mes 20 ans. Et la première fois que j'ai vu que j'ai rencontré une jeune fille et je suis tombé amoureux de cette jeune fille, même si je savais que ça allait pas aller jusqu'au bout. Mais ce conte, quand je le raconte, j'ai l'impression que j'ai 20 ans. Donc c'est magnifique. Quand je raconte, j'ai 20 ans. Et c'est, voilà, ça s'appelle Les Étoiles et c'est Daudet aussi. Hein, c'est Daudet. Daudet est assez extraordinaire à ce niveau-là. Voilà, c'est celui qui me vient comme ça.
Pour moi, il faut que ce soit une musique agréable, récréative, ce qu'on appelle, et surtout danse. Alors, évidemment, en musique classique, il y a tout un spectre de sensibilité. Souvent, on considère que la musique classique est sérieuse. Il suffit de regarder quelquefois les musiciens d'orchestre. Je sais que moi, je suis très sensible aux modulations. Quand vous jouez, c'est astucieux. Donc voilà. Et donc, les musiques, en réalité, c'est de la musique, en fait. Et la musique, c'est un peu comme les personnalités de chacun d'entre vous, d'entre nous. C'est que il y a des musiques pour toutes les heures du jour et de la nuit, comme on dit chez les Indiens avec les fameux ragas. Vous avez des ragas de jour, ragas de nuit, etc. Et bien pour la musique, c'est pareil pour nous. Et donc, en réalité, c'est une projection de votre âme. Donc, la musique, elle est protéiforme, elle est multiple. Et donc, dans ce sens-là... toutes les musiques me chavirent. Moi, j'écoute ça toujours. Alors, c'est un peu mon défaut d'analyste et d'esthéticien de la musique, mais on n'empêche que chaque fois que j'écoute quelque chose, je ne l'écoute pas banalement. Et c'est pareil chez vous, quand vous rentrez dans un espace où il y a toujours un environnement brutal en tout genre, n'écoutez pas passivement la musique, mais essayez de tout savoir ce qui se passe, comment ça s'enchaîne, quels instruments. Et là, vous arrivez à la quintessence véritable de l'esthétique musicale. Et que ce soit la musique classique occidentale, que ce soit la musique orientale, que ce soit la musique asiatique, c'est exactement pareil. Il y a une sorte, là, exactement comme dans le conte, d'universalité dans l'approche du phénomène sonore. Voilà, et ça c'est très important effectivement sur la compréhension esthétique des gens. Et si les gens effectivement, comme disait Platon, c'est de la musique de l'âme, et si les peuples effectivement avaient cette notion évidemment de connaître les chansons des peuples de l'autre, personne ne se ferait la guerre. Et vous voyez, Platon, c'est 4e siècle avant Jésus-Christ, et il a l'intérêt il vous dit, parce que c'est un des théoriciens aussi de la musique, et il vous dit il faut, pour connaître un peuple, connaissez ses chansons. Pour reconnaître un peuple, connaissez ses contes, voyez. Et donc, c'est l'inconscient collectif que vous avez. Et donc, voilà, la musique est multiple. Et donc, la pratique, c'est ça. Et après, la musique, vous avez des heures du jour où la préférée est créative, un peu plus lente, un peu plus difficile. Moi, mon idéal de musique, c'est le quatuor à cordes. C'est un peu austère, mais j'adore ça. C'est comme ça. Voilà.
Merci à tous les deux pour votre temps et vos réponses. Pouvez-vous nous faire un jingle pour Radio Sommière ?
À qui ? Siam ben escuta Radio Sommière. Amen Leo.